C'était Agent Orange de Cage. Merci d'être toujours avec nous. On est en direct des Assises du journalisme au Palais des Congrès de Tours. Vous écoutez une émission du réseau Radio Campus France.
Les Assises internationales du journalisme de Tours 2025. Faits divers à la une avec les radios du réseau Radio Campus France.
Pour ce troisième et dernier temps thématique de notre émission, on va parler bouleversement technologique, puisque nous allons nous poser la question de l'intelligence artificielle et de son impact sur les techniques journalistiques. Comment les journalistes s'emparent de l'IA? Doit-on réglementer son recours dans le milieu des médias? Peut-on avoir une intelligence artificielle éthique? On va répondre à toutes ces questions dans un instant avec nos invités, Christophe de Valembrasse et Vincent Berthier. Bonjour.
Bonjour.
Mais tout de suite, on écoute Aymeric de Radio Campus Angers et Manon de Radio Campus Toulouse. Je crois qu'ils ont un différend à régler au sujet de l'IA.
Ben bonjour tout le monde. Bonjour Manon.
Salut Aymeric.
Bon alors Manon, dis-moi, toi tu veux être journaliste, c'est bien ça? Donc j'espère que tu as vraiment préparé tes mouchoirs parce que c'est mort. En fait, il n'y a plus aucun avenir pour nous. Donc vaut mieux acheter vraiment une boîte de Xanax parce que l'IA arrive et ça va tous nous tuer, ça va tuer le métier.
Tout de suite les grands mots. Au contraire, certes, je veux être journaliste, mais bon, avoir une petite aide, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Oui, mais il y a un côté humain dans tout ça. Cette petite aide, comme tu dis, elle va détruire des emplois. Il y a des personnes derrière ces tâches. Des fois, ce sont des stagiaires ou des assistants qui galèrent, qui débutent. Puis bon, la différence entre une aide et du plagiat, bon, vraiment de fine, hein.
Mais justement, ça laisse place au vrai journalisme, sans avoir à s'occuper de toutes ces tâches qui prennent juste de l'énergie ou encore du temps pour rien. C'est une méga super assistance, quoi. Plus besoin de se faire chier avec les synthèses de dépêches, les traductions, les retranscriptions d'interviews et j'en passe, sans parler des recherches. Attends, 2 secondes, Mr. GPT te sort une réponse d'une page sur n'importe quel sujet. Je pense que même le nombre de pingouins sur le pôle Nord, il l'a, tu vois. Regarde, entre 50 et 80 millions. Tu te rends compte ? Bref, au final, l'IA, c'est juste un stagiaire plus. Bon, je te l'accorde, il peut pas faire le café. Et en fait, non, tu sais quoi? Parce que Google Home, ça marche.
Eh ben justement, tu parles des pingouins. Mais si tu les aimes vraiment, ces pingouins, tu vas pas utiliser l'IA. Parce que la banquise, tu sais que tu peux lui dire ciao avec le réchauffement climatique. Et les serveurs d'IA, ça pollue un max. Et puis, en plus, tu trouves pas ça flippant un peu, cette humanisation de l'IA? Regarde, on va parler de l'IA comme c'était un humain, comme c'était ton pote, on lui dit bonjour, merci, il te prépare le café, il te cherche des infos. Alors que bon, faut pas oublier quand même que c'est un robot. Au final, il est surtout contrôlé par un milliardaire ou encore un gouvernement. Et l'un comme l'autre, on les connaît, il n'y a pas d'éthique. Et tout ce qui est vraiment important, c'est la défense de leurs propres intérêts. Tu connais par exemple la fameuse éthique de Elon Musk, j'imagine, qui possède Grok, ou encore celle du gouvernement chinois, qui possède DeepSeek. Donc, est-ce que tu la vois, là, la question de la déontologie, de l'éthique, de la vérification, du contradictoire, enfin, les bases du journalisme? Donc, on va reprendre partout des infos qui vont être créées par ces propriétaires d'IA, ces gouvernements, et on va vraiment avoir des news à la Pascal Pro partout, à la Cyril Hanouna en puissance, que de la fake news qui sont répandues et qui répand des torrents de haine.
Mais non, faut pas parler de malheur. Je capte toutes ces visions négatives, mais en réalité, l'IA, c'est une nouvelle technologie et comme toutes les précédentes, elle est accueillie d'une manière chaotique. Mais en vrai, ça se révèle toujours utile. Regarde la génération de nos grands-parents avec Internet. Là, on pourrait en faire un sujet, voire un sketch. Mais je pense qu'il faut évoluer et s'adapter à son temps, vois-tu. Surtout lorsqu'on parle de technologie, d'Internet et de journalisme.
Tu parles de la génération de nos parents, de nos grands-parents. Mais justement, tout le monde n'est pas prêt pour ce changement. On le sait très bien qu'à certaines personnes sont plus fragiles et que ça va être vraiment impossible de différencier le vrai du faux. Tu connais peut-être les IA de deepfake, donc celles qui vont créer des fausses vidéos, des fausses photos. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a eu des faux Florent Pagny ou encore des faux Brad Pitt.
Eh bien justement, si tous ces boomers savaient utiliser ChatGPT, ils auraient pu vérifier si c'était vraiment Brad Pitt ou Florent Pagny.
Oui, mais ils savent pas. Donc ça voudrait dire qu'on va avoir un accès à l'info qui est conditionné à une éducation. Donc on revient à un concept encore plus ancien qui est, dans un certain sens, la lutte des classes. On a une élite qui contrôle l'info, la capacité à la comprendre, et le prolétariat est comme d'hab mis de côté. Il n'y a plus aucune accessibilité de l'info.
Ouais bah ça n'a jamais changé. Et c'est un autre débat d'ailleurs. Et tu sais quoi, je vais laisser ChatGPT te répondre. Donc là il te dit, l'IA c'est un outil, pas un remplacement. Un journaliste doit vérifier et analyser. L'IA aide, mais elle n'a pas le flair humain. Faut l'utiliser avec intelligence.
Tu sais quoi, moi je préfère laisser répondre des vrais professionnels et je vais laisser la parole.
Merci Aymeric, merci Manon pour cet échange. On va en effet laisser maintenant les professionnels répondre puisque pour parler un peu plus sérieusement du sujet de l'IA et de son utilisation par les journalistes, nous recevons 2 invités. Christophe de Valembrasse, vous êtes chef du Media Lab de l'information et journaliste grand reporter chez France Télévisions. Bonjour.
Bonjour.
Et Vincent Berthier, vous êtes responsable du desk technologie et journalisme de Reporters sans frontières. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être avec nous. Et pour mener cet entretien, nous avons en plateau Marie et Samuel, qui sont ici comme à la maison, puisque les deux sont en service civique chez Radio Campus Tours. Salut Marie, salut Samuel.
Salut.
Bonjour à
tous. Je vous laisse la parole.
Oui, donc tout d'abord, bonjour Vincent Berthier et Christophe de Valembrasse. On vous remercie à notre tour d'avoir accepté cette invitation. Donc ce mardi matin, vous avez participé à une table ronde. Vous étiez avec Sophie Huette, directrice adjointe de l'information, chargée de l'intelligence artificielle et de l'innovation rédactionnelle de l'AFP, donc l'agence France Presse, Sébastien Georges, directeur des rédactions du Républicain Lorrain, Vosges Matin et l'Est Républicain, et coordinateur du groupe EBRA, ainsi que Xavier Eutrope, qui a animé cette table ronde autour de cette question: comment les rédactions s'emparent de l'IA. Vous l'avez dit durant cette table ronde, ce qui a vraiment révolutionné l'IA et accéléré toutes les mesures prises pour encadrer son usage, c'est l'arrivée donc de l'IA générative et l'introduction de conversations avec une interface très accessible et l'écriture de texte, notamment en novembre 2022, on pense à ChatGPT entre autres. Donc, une question introductive pour bien comprendre les enjeux autour de l'IA. Quels sont les grands chamboulements qu'apporte l'IA dans le journalisme et à quels enjeux fait-on face dans les rédactions?
Je t'en prie, Vincent. Bah, écoutez, déjà, merci pour votre invitation. Quels sont les grands chamboulements dans le journalisme? On ne sait pas encore. On imagine beaucoup de choses, on expérimente beaucoup de choses. C'était aussi un peu le cœur de notre intervention de ce matin. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'arrive pas seule, elle arrive chargée d'imaginaire. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est pas la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle dans le journalisme. On en parle régulièrement. On parle même régulièrement d'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qui est très fort. Et on imagine quelque chose, une machine extrêmement autonome, capable de produire de l'information, capable de produire des articles personnalisés. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on peut aussi parler de réseaux sociaux. Donc, ces intelligences artificielles-là, on sait ce qu'elles ont changé sur le journalisme. Mais restons sur l'IA générative. Pour l'instant, on teste, on essaye, on voit ce qu'il est possible de faire. Et en fait, ça pose énormément de questions, et notamment beaucoup de questions à la fois sur l'éthique du journalisme, mais aussi sur la manière dont on le pratique.
Et en parlant de ça, afin de structurer l'usage de l'IA dans le journalisme, une charte a été rédigée en novembre 2023, la charte de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ses fondements?
La charte de Paris, c'est le fruit d'un travail collaboratif que Reporters sans frontières a initié sous la présidence de la prix Nobel de la paix Maria Ressa, qui est une journaliste philippine qui s'est très tôt engagée dans les problématiques d'intelligence artificielle. L'idée que Reporters sans frontières a eue avec cette charte, c'était de pouvoir fournir aux médias et aux journalistes qui souhaitaient s'emparer de l'intelligence artificielle un cadre éthique relativement universel, parce qu'on a vraiment des gens du monde entier qui ont contribué, qu'ils pouvaient après approprier à leurs besoins pour tout simplement... Nous, notre obsession, notre raison d'être, notre mission, c'est à la fois de défendre les journalistes et de défendre l'accès à l'information journalistique. Donc l'idée, c'était de fournir un document qui permette aux journalistes de se servir d'intelligence artificielle sans porter atteinte à ce qu'on appelle l'intégrité de l'information, autrement dit, l'information de qualité.
Et donc, pour garantir tout ça, quels ont été les impératifs pour constituer cette charte? Et qu'est-ce qu'il est important de conserver dans l'exercice du journalisme au regard de l'IA?
Commençons par le plus évident. Ce qui est indispensable de conserver, c'est le jugement humain. Aujourd'hui, le journalisme, c'est une activité qui est une activité humaine. Un journaliste, c'est pas seulement quelqu'un qui produit des données, qui les certifie. C'est quelqu'un qui vient de quelque part, qui raconte quelque chose, qui a rencontré des contacts, qu'il a développé au fur et à mesure des années, et qui a un point de vue et une éthique. C'est tout ce qui est passionnant dans le journalisme. C'est pas juste des gens qui racontent une histoire, c'est pas juste des gens qui produisent des données. C'est des gens qui font les deux en même temps et qui le font au service de l'intérêt général. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir comprendre comment fonctionnent les machines. Ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'aujourd'hui, c'est le règne de l'opacité. On a quelques modèles qu'on dit open source, mais en fait, quand on creuse un peu, tout n'est pas open source dans l'open source. Et aujourd'hui, même les plus spécialisés des ingénieurs sont bien en peine d'expliquer exactement le fonctionnement d'un modèle de langage, donc d'une IA générative. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut avancer. Il y a aussi tous les enjeux qui vont être les enjeux de responsabilité, c'est-à-dire dire que un journaliste, un média, un éditeur reste responsable des contenus qu'il publie sur son site ou sur ses différents canaux, peu importe qu'ils aient été générés par IA ou non. Et bien sûr, la responsabilité des auteurs de pouvoir signaler que leurs contenus n'ont pas été produits par une IA ou ont été produits par une IA pour informer le public sur la nature du document qu'ils consultent.
Donc je pense notamment à vous, Christophe de Valembrasse. Comment travailler avec les deepfakes, donc ces images qui sont créées par l'IA et qui peuvent complètement induire en erreur par leur réalisme et diffuser plein de désinformations parmi les répercussions qui ont pu être citées, notamment à la télévision dans le cas de Media Lab pour France Télévisions, c'est la protection de l'anonymat qui est mise en danger. Dans la génération d'images, l'IA a la capacité donc de reconstituer le visage d'une personne qui serait floutée et donc d'annuler tout anonymat. Quelles solutions peut-on développer contre ça ?
Alors, on les cherche, les solutions. On va essayer de les trouver de manière, j'ai envie de dire, la plus humaine possible. Parce que, globalement, les deepfakes, aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de solution technologique pour dire cette image est une vidéo fake ou pas. Ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Ça va venir, peut-être, un jour. Mais au fur et à mesure qu'on travaille à des technologies qui arrivent à déceler si c'est un fake ou pas, malheureusement, les technologies pour les créer évolue tout autant. Donc on ne s'appuie pas là-dessus. Donc on fait à l'ancienne ce qu'on fait déjà. Concrètement, les deepfakes, ils sont pas nés avec l'intelligence artificielle générative qui a explosé avec l'arrivée de ChatGPT il y a 2 ans. Jusqu'à présent, n'importe quel graphiste un peu génial arrivait à faire des choses à peu près cohérentes dans le maquillage d'images et ces derniers temps de vidéos. Donc on avait des journalistes et on a désormais des journalistes qui sont spécialistes de la lutte contre la désinformation et qui ont avec eux un certain nombre d'outils open source, etc., qu'on appelle OSINT ou peu importe, et qui vérifient systématiquement la cohérence de l'image, de la vidéo avec un principe journalistique. Ça, ça va continuer. On va faire toujours la même chose, sauf qu'on va devoir le faire plus souvent, parce que ce qui change, c'est pas qu'on soit capable de faire des deepfakes, soit vidéo ou image, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde soit capable d'en produire. Avant, il fallait des graphistes. Avant, il fallait, même pour ceux qui faisaient des faux textes de propagande, il fallait quand même qu'il y ait des gens un peu spécialisés qui le fassent. Aujourd'hui, simplement en se mettant devant un ordinateur, un gamin de 12 ans peut faire aujourd'hui se battre Zelensky et Trump dans le bureau ovale. Donc on va être confronté, en fait, non pas à un problème nouveau, mais à une ampleur de problèmes nouveaux. Et pour ça, on commence déjà à se mettre en ordre de bataille et à réfléchir à la riposte. Après, il y a effectivement un cas bien spécifique qui est l'anonymat, et on l'a décelé assez vite effectivement au Media Lab, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilise, je ne vais pas rentrer dans les détails technologiques parce que c'est un peu compliqué, mais on utilise un flou qu'on appelle flou gaussien, grosso modo, on brouille les pixels et puis on ne reconnaît pas les personnes. Ça suffisait jusqu'à présent, c'est un peu la méthode la plus rustique, mais la plus robuste qu'on avait à notre disposition. Sauf qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, qui donc peut générer des contenus, est capable de générer, pour faire simple, un portrait robot qu'elle va réussir à faire de plus en plus réaliste jusqu'à, finalement, désanonymiser ce qu'on proposait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'en sait rien exactement, on est en train de se poser les questions. Évidemment, on se dit que recourir à l'intelligence artificielle, par exemple, pour des techniques de deepfake, dit for good, c'est-à-dire pour le bien et le respect des personnes, ça peut être une solution. On se pose la question de savoir comment à tout moment quelqu'un qui regarde nos images pourra être au courant que c'est bien un deepfake, parce qu'il est hors de question d'utiliser pour l'instant, et j'espère que ça va durer, et c'est parti pour l'IA sans le dire aux gens. Donc vous voyez, on est confronté à une multitude de problématiques qui sont l'offre d'intelligence artificielle qui pourrait venir nous aider. Et d'un autre côté, toutes les réflexions déontologiques, éthiques, etc. dont a parlé Vincent et qu'on partage tous globalement et en tout cas dans l'audiovisuel public en France et qui vont venir cadrer les usages qu'on va faire de l'IA. Donc on a un problème d'anonymat, on a plein d'autres problèmes, on est en train de les régler au fur et à mesure qu'on comprend ce qui se passe et qu'on apporte une solution à tous les problèmes liés à l'IA générative en même temps qu'on s'interroge sur les opportunités. Parce que voilà, il y a peut-être des choses positives, si elles sont bien cadrées, qui peuvent nous servir.
On vient de parler de Media Lab et des solutions qu'ils proposent. Et maintenant, du côté de Reporters sans frontières, avec l'Alliance de la presse d'information générale, initie le projet Spinoza. Ce projet a la volonté de créer un outil basé sur l'intelligence artificielle générative pour permettre aux journalistes d'améliorer le traitement médiatique des questions environnementales. Comment a été pensé cet outil? À quels besoins est-ce qu'il cherche à répondre? Et comment est-ce qu'il fonctionne?
Alors, comment a été pensé cet outil? Il a d'abord été pensé comme un projet expérimental. C'est-à-dire qu'au tout début, on annonce le projet Spinoza une semaine ou deux après avoir publié la charte, hein, en novembre 2023 également. C'est pas innocent, c'est une forme de continuité. L'idée, c'est de dire, bon, on a fait cette charte, on a des principes, et on a bossé pour avoir ces principes avec des spécialistes et des sommités. Stuart Russell, par exemple, qui est un des plus grands noms en machine learning actuel. Est-ce qu'on peut utiliser néanmoins l'IA pour produire des choses intéressantes pour le journalisme? Et donc on a réuni avec l'Alliance, qui représente les éditeurs de presse écrite quotidienne en France, et hebdomadaire d'ailleurs, on a dit, bah, nous on aimerait faire cette expérience-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de constituer des bases de données sur le climat, parce que le climat ça a été identifié comme un sujet important, et c'est important quand vous faites de l'intelligence artificielle sur des bases de données, de déterminer de quoi elles vont traiter vos bases de données, de déterminer un sujet, d'éditorialiser votre outil. Et après, on a commencé à construire avec un algorithme fermé, hein, c'est GPT 3.5 au début, donc c'est ChatGPT, qui va aller requêter des informations dans des bases de données qu'on aura choisies avec les journalistes, en suivant des instructions qui auront été écrites de manière collaborative avec des journalistes. Et au début, c'était vraiment juste pour voir est-ce que ça marche ou pas. Oui, ça marche. Oui, c'est intéressant. Et on est monté en puissance. On a amélioré les qualités des bases de données. On a des articles de presse qui composent ça. On a l'AFP qui nous a rejoint, qui nous a mis un jeu de données à disposition et qui a pu tester l'outil et donc contribuer à son amélioration. Et aujourd'hui, on a des fonctionnalités qui sont intéressantes, comme le fait, par exemple, de pouvoir sélectionner plus finement les sources qu'on va interroger, et de pouvoir également passer en anglais, parce qu'aujourd'hui ce projet Spinoza qu'on a développé de manière fermée, hein, c'est pas accessible au public ce qu'on a fait, c'est juste accessible aux gens qui participent à l'expérience, mais on a l'intention d'ouvrir le code et de rendre accessible tout ce qu'on peut rendre accessible, c'est-à-dire le fonctionnement de l'outil, les prompts, c'est-à-dire les instructions, et les données pour lesquelles on aurait eu l'autorisation de le faire, afin d'inviter tous les médias à s'emparer de ce qu'on a fait en disant ça c'est une base éthique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil qui permet aux journalistes de contrôler comment la machine fonctionne à chaque étape de son fonctionnement. Et d'appeler les médias à dire, bah, nous on a fait ce travail, vous n'aurez pas à le faire, et vu que c'est complètement ouvert, bah, vous allez pouvoir faire vos propres outils, l'améliorer, et contribuer à distribuer dans le milieu journalistique des outils pensés par et pour les journalistes.
Le temps passe, malheureusement, on aurait plein de questions à vous poser, mais on va être obligé de conclure un petit peu. Pour terminer cet entretien, vous le disiez donc lors de cette table ronde, il y a une vraie nécessité autour d'une culture collective de la part de tous les acteurs médiatiques. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'élaboration d'une culture collective entre acteurs médiatiques autour de l'IA?
Oui, on est optimiste parce qu'on n'a pas le choix d'abord, et puis c'est plutôt notre caractère. Encore une fois, l'IA générative, je le disais tout à l'heure, hein, c'est un tsunami, donc soit on se noie, soit on surfe. Autant essayer de surfer, on verra bien si on y arrive, mais on peut toujours essayer. Et oui, parce que c'est pas d'ailleurs que des paroles, on vient de sortir avec l'ensemble de l'audiovisuel public, c'est-à-dire l'INA, France Média Monde, Radio France, évidemment France Télévisions, TV5 Monde, une cartographie des enjeux et usages de l'IA générative pour le journalisme. On a sorti ça à l'occasion du sommet international pour l'action sur l'IA dernièrement à Paris. Et on recense tous les secteurs dans le domaine journalistique où l'IA peut venir travailler, la préparation, la production, la lutte contre la désinformation, le référencement auprès des publics, etc. On a également produit collectivement hein, tout ça, une charte, entre guillemets, un tableau référentiel d'analyse des outils IA, avec un certain nombre, je dis une charte parce que à partir du moment où on va collectivement essayer de réfléchir aux critères qui nous permettront d'analyser la pertinence d'un outil, forcément déjà en soi, on fixe, entre guillemets, le cadre d'usage. Donc oui, on est en train de travailler ensemble, et oui, on est en train de trouver les solutions. À côté de ça, la culture collective, elle est nécessaire parce qu'on est face à une disruption, c'est-à-dire une technologie disruptive forte. Ça veut dire qu'il faut que tous les collaborateurs, je vais parler pour France Télévisions, mais ça vaut pour tout le monde, sachent de quoi on parle afin de déterminer quels sont les usages les plus pertinents et comment on va mettre en œuvre tout ça. Est-ce que oui ou non, on va vaincre les anxiétés qu'on entendait pour boucler la boucle sur le petit sketch que vous avez au début de notre entretien. Et pour ça, il faut que tout le monde soit au courant et comprenne à minima, au fur et à mesure qu'on comprend, ce qui est en train de se passer. C'est fondamental. Et par exemple, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, les agents conversationnels, et pour retomber sur le sketch, où on parlait un petit peu de est-ce que c'est la panacée pour avoir de l'information, je vous dis que non, moi, parce que c'est pas fait pour ça. Un agent conversationnel qui a derrière lui un modèle de langage, les modèles de langage se sont appuyés sur un certain nombre de connaissances, de données, pour apprendre à parler. Et aujourd'hui, le réflexe qu'ont les deux personnes qui ont fait le sketch, c'est de dire est-ce qu'un modèle de langage est meilleur que l'autre parce qu'il donne plus d'informations ou pas. C'est pas leur vocation. Ils ont appris à parler avec ces informations-là. Et à tout moment, lorsqu'ils vont vous répondre, vous allez transposer une conversation normale avec un humain, c'est-à-dire vous posez une question, vous vous dites que l'humain va réfléchir et va vous répondre. Ce n'est pas ce que fait un agent conversationnel d'IA générative. Ce qu'il fait, c'est agencer des mots les uns après les autres pour atteindre le maximum de probabilité que ces mots puissent être la réponse à la question que vous avez posée. C'est tout ce qu'il fait. Il ne sait pas si c'est vrai, il ne sait pas si c'est faux, il ne sait pas si c'est moral, il ne sait pas si c'est éthique. Ce n'est pas son propos. Au fur et à mesure, on va adjoindre ces modèles de langage à des recherches, à de la compréhension du texte, etc. Ils sont bluffants parce qu'ils parlent mieux que nous, français, et probablement une trentaine de langues. GPT 3.5 avait un QI verbal d'environ 155, donc autour de cette table, vous êtes certainement tous très brillants. Moi, en tout cas, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais c'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire, parler. Donc nous, déjà, il faut qu'on explique aux journalistes que ce n'est pas une source d'information, un agent conversationnel. C'est quelque chose qui va lui permettre de travailler sur du texte, qui va lui permettre de reformuler un certain nombre de choses, d'analyser des bases de données qui n'auraient pas la capacité intellectuelle d'analyser vu leur ampleur. Tout ça, il y a plein de choses à faire. Mais la chose qu'il ne faut pas faire, c'est considérer qu'il donne des informations fiables et vérifiées. Ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup, Christophe de Vallombrasse. Ce sera le mot de la fin pour cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Christophe de Vallombrasse et Vincent Berthier, on retiendra vos conseils à propos de l'IA. Merci à Marie et Samuel de Radio Campus Tours d'avoir mené cet entretien. Restez avec nous sur Radio Campus France. On revient dans un instant après une petite pause musicale.